Mario Dumont. Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre Latraverse Dumont.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Est-ce que la carrière politique de M. Trudeau s'est terminée, s'est rompue avec son passage devant la commission sur l'état d'urgence aujourd'hui?
Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est une de ses meilleures performances comme premier ministre. S'il maîtrisait tous les dossiers dont il parle avec la même maîtrise qu'il a affiché aujourd'hui dans son témoignage et le même aplomb, il serait pas mal plus haut dans les sondages, je pense. T'es pas d'accord, toi?
Ouais, moi j'ai trouvé, j'ai pas tout vu là, j'étais en onde à certains moments, mais moi j'ai trouvé qu'il était très solide, je disais sans farce, moi j'ai trouvé qu'il était imperturbable. Il fournissait pas nécessairement toutes les réponses là, sur le fond aux questions cruciales, mais des fois les réponses sont pas là, mais à ce que j'ai vu, il a jamais paru déstabilisé à aucun moment de la journée là.
Moi ce qui me surprend, c'est que t'sais, si on dresse le bilan de la semaine, là, parce qu'on a vu M. Trudeau passer, on a vu ses ministres qui étaient au fait de ce dossier-là, c'est que on a énormément reproché au gouvernement d'être complètement dépassé, déconnecté pendant cette crise-là. Mais quand tu les écoutes témoigner, tu dis ben pourtant ils saisissaient les enjeux, ils préparaient les trucs, ils étaient au courant, ils avaient saisi le problème. C'est comme si il y a un décalage complet entre ce qu'ils disent, ce qu'ils faisaient et qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont projeté à la population. Je pense que c'est ça qui explique en partie l'espèce d'état de crise dans lequel on s'est retrouvé. Puis M. Trudeau a comme un peu mis le doigt dessus au début de son témoignage. Il dit, on était dans une situation où on manifestait contre le gouvernement fédéral, devant le gouvernement fédéral. Fait, tout le monde a présumé que c'était au gouvernement fédéral de régler le problème. Il dit, on habite dans une fédération, là, il n'y a rien des solutions qui relevaient de nous, là.
Non, les rues devant le Parlement, c'est la responsabilité de la ville d'Ottawa d'assurer la sécurité et le travail policier, là.
C'est comme s'il s'est retrouvé qu'une patate chaude sur son bureau, mais qui n'était pas sa patate. Puis, dans les faits, on comprend surtout pourquoi Doug Ford n'a pas voulu aller témoigner puis est allé jusque devant les tribunaux pour ne pas témoigner, parce que ça devient, c'est évident que finalement on a laissé le gouvernement fédéral se débrouiller avec cette pression politique à régler une crise sur laquelle il ne pouvait pas agir. Puis moi, dans mon esprit, on peut avoir plein de débats là, sur la loi, le CRS, est-ce qu'ils ont passé le test, ils n'ont pas passé le test, est-ce que whatever. Finalement, là, c'est pour ça que le gouvernement il a invoqué la loi sur les mesures d'urgence. Là. C'est-à-dire, regarde, il faut que ça arrête à un moment donné. Là. Puis tant pis, on avisera, tu sais.
Ouais. Est-ce que, parce que j'ai raté un bout, l'avocate du convoi des camionneurs, est-ce que c'est, parce qu'on se disait ça allait peut-être être l'échange, le contre-interrogatoire le plus serré de M. Trudeau, est-ce que c'était le cas?
Non, pas vraiment, parce que c'est comme si, c'est comme s'ils sont tellement pris dans leur propre logique, qui est pas conspirationniste, mais qui est pas loin en vérité, à l'effet que le gouvernement n'a pas compris, puis qu'eux étaient des bonnes personnes qui sont persécutées, qu'ils ont pas ils sont encore prisonniers de cette logique-là dans leurs interrogatoires. Puis finalement, ce qu'elle essayait de faire dire à M. Trudeau, c'est que le 13 février au soir, donc le dimanche avant qu'on invoque la loi sur les mesures d'urgence, au moment où objectivement M. Trudeau a commencé à se brancher, là, qu'il y avait, tu te rappelleras, une forme d'entente entre le maire d'Ottawa, Jim Watson, et les camionneurs pour comment on enlève les camions de sur les rues résidentielles puis qu'on les mette sur la rue Wellington, tu sais. Et donc, elle voulait faire dire à M. Trudeau que de toute façon, la crise était en train d'être résolue et que c'est ça, et que donc, il n'y avait plus de menaces et que ça ne justifiait pas un état de crise. Mais on peut avoir un débat là-dessus tant qu'on veut, là, mais je pense que dans l'esprit du public, en général, ça passe pas le test. T'sais. Puis la réponse de M. Trudeau, elle est très facile, là, c'est de dire, écoutez, le problème, là, c'est que peut-être qu'on était, il y avait un début de voie de peut-être de sortie à Ottawa, Peut-être qu'au pont Ambassadeur, on était en train de lever le blocus, puis qu'on a fini par le lever dans la journée du 14. Mais dis-nous, toutes les informations qu'on avait, c'est que les manifestants à Windsor, ben ils allaient à Sarnia. Puis les manifestants à Coutts, ils allaient aller à Surrey. T'sais, c'était comme puis on voulait pas entrer dans un jeu de chasse du chat et de la souris avec les manifestants. Puis je pense que objectivement c'est ça qui a convaincu le gouvernement. Donc c'est par mesure préventive qu'il l'a fait. Pour qu'une fois qu'on claire une situation, mais qu'on soit pas pris à en gérer une autre, tu sais, pour comme envoyer un signal fort. Donc ce qui est intéressant, c'est que politiquement maintenant, on a une vision très claire qui se défend du choix politique du gouvernement d'agir. Mais est-ce que légalement, pardonne-moi, c'était assez? On n'a toujours pas ce portrait-là, je
pense. Ouais. Et ça, c'est le juge Rouleau qui va devoir trancher tout ça. Parlons de cette entente qui est intervenue entre les partis. Ça fait drôle parce que c'est un peu difficile d'en parler pour les gens qui nous écoutent. Tu dis, ben là, s'il y a une entente, il y a une entente. Généralement, une entente, tout le monde est heureux puis se serre la main. Mais là, t'as le Parti québécois qui signe l'entente, mais avec... C'est-à-dire que si le Parti québécois, déteste l'entente, mais la signe, parce que s'ils la signent pas, ils en font plus partie, puis ils vont être traités comme trois députés indépendants, puis ils n'auront plus aucun droit, puis ils n'auront plus aucun budget, ils n'auront plus rien pantoute. Fait qu'ils la signent de force, mais Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est retourné, qui a écrit un long texte sur son Facebook là, sur le sentiment qu'il a d'être floué. Est-ce qu'il a raison, d'après toi, de se sentir floué?
Oui, il a raison de se sentir floué, mais il a tort de s'être imaginé qu'il ne serait pas floué.
Oh, oui. Ben ça, c'est une autre affaire.
Non, mais c'est le fond du problème. C'est que le PQ est entré dans ces négociations-là en s'imaginant que les autres partis allaient l'aider à corriger la distorsion du vote et qu'il pourrait obtenir un financement et une place à l'Assemblée nationale en termes de temps de parole représentatif du nombre de votes que le PQ a obtenu, ce qui se défend puis qui est très légitime comme façon de voir l'enjeu. Et dans les faits, tous les autres partis, ça les sert de rester dans une logique que tu es financier puis tu as du temps de parole proportionnellement à ton nombre de sièges.
Ouais, mais Québec solidaire, ils ont négocié leur affaire pas à peu près là. Ils ont trois questions par période des questions, 2 quelque chose millions de budget. C'est-à-dire, autant le PQ, c'est comme retrouver un peu le derrière sa paille, puis signer ce qu'ils pouvaient, puis autant Québec solidaire, ils ont bien négocié leurs affaires, là, pas à peu près. Lui Gabriel Nadeau-Dubois, il sort triomphal de ce nez. Puis, tu sais, il a été sobre, on l'a pas entendu parler de tout ça, c'est un sujet qui a pas abordé sa place publique, mais excuse-moi, il a pas tenté ses affaires là, avec les autres partis.
Non, ben c'est ça, il a bien géré ses affaires, c'est lui clairement qui sort le gagnant de ce duel des tiers partis, si on veut. Mais en bout de ligne, M. Plamondon a bien fait de mener la bataille, puis je te dirais qu'il a bien fait de la mener sur la place publique. Parce que en bout de ligne, il n'a pas gagné le pirou, là, mais il y a 7 questions au lieu de 5 sur 10 jours. Puis il a quand même reçu 70 000 $ de plus, là. Ça, c'est le salaire d'un autre chercheuse ou d'une autre conseillère, là. Alors, il a fait des gains. Ce que je trouve très joli et astucieux de leur part, c'est que là, le PQ va lancer une campagne de financement pour recueillir 120 000 $ pour payer les 2 recherchistes dont il a besoin et qui ne sont pas financés par l'Assemblée nationale parce que, comme tu sais...
Il va probablement demander 120 000 puis il va ramasser 250 000 parce que l'enjeu a tellement été publicisé qu'il va recevoir plus de dons que prévu.
En bout de ligne, je suis pas sûre que sur le budget, il va en sortir perdant, mais il fait bien de le dénoncer. Comme ça, il est conséquent avec lui-même et en bout de ligne... Il y a eu le mieux qu'il pouvait avoir, je pense, dans les circonstances. Là, faut pas se leurrer.
Ce qui veut dire essentiellement, là, si on essaie de simplifier ça pour les gens, t'as la période de questions tous les jours. Enlevons les sessions intensives. Là. Tu sais, en session régulière, t'as 3 périodes de questions par jour, par semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Les autres journées, les députés sont en comté. Donc, à chaque jour, les libéraux sont sûrs à peu près de 6 questions. Québec solidaire de 3. Puis là, le PQ, une journée...
Il y en a 2 sur 3.
Donc, il y a une journée dans la semaine qui n'auront pas de questions. En gros, c'est ça. Puis de temps en temps, toutes les trois semaines, là, Marie-Claude Nicole va avoir droit à une question.
Oui, c'est à peu près ça. Écoute, c'est odieux quand tu penses à la proportion de personnes qui ont voté pour le Parti québécois par rapport à Québec solidaire, puis encore plus odieux par rapport au Parti libéral. Là, on s'entend, là, le Parti libéral a eu moins de votes que le PQ. Puis ils ont comme, tu sais, 5 fois et demi le budget, puis...
10 fois les questions, exactement. 9 fois les questions.
Tu sais, à un moment donné, c'est ça la...
Ouais, mais c'est parce que on a 9 fois plus de questions, mais c'est parce que là, on rentre dans notre système parlementaire. Dans notre système parlementaire, il y a un acteur du système parlementaire qui a un devoir de surveillance du gouvernement. Non, mais je parle qui s'appelle l'opposition officielle, là, qui a le devoir prioritaire de surveillance du gouvernement. Même les libéraux sont faibles, ils représentent pas beaucoup de monde, ils n'ont pas eu beaucoup de votes, ils représentent plus personne en région, ils sont juste dans l'ouest de Montréal. Il reste qu'ils ont le titre de l'opposition officielle, puis vient avec ça. Puis là, on parle de la période de questions.
Tous les gréments qui viennent avec.
Ah oui, et on parle de la période de questions, mais quand il y a le budget, quand, tu sais, je pourrais te nommer là, toutes sortes de procédures parlementaires où l'opposition officielle est automatiquement un droit de réplique. Là. Tu sais, le ministre fait une annonce, l'opposition a un droit de réplique de 5 minutes. Donc, tu es sûr que le ministre se rassoit, là, puis tu as instantanément un droit de parole, un droit de réplique que les autres ont pas. Donc, mais ça, les libéraux, c'est pas pour rien que Gabriel Nadeau-Dubois rêvait durant la campagne de devenir l'opposition officielle.
Non, il avait compris
tout ça, là.
Mais moi, je te fais deux prédictions. De un, ça met énormément de pression pour qu'il y ait une vraie réforme parlementaire.
Oui.
Mais de deux aussi, moi, je soupçonne qu'il va y avoir un autre débat qui va atterrir sur le bureau, c'est le débat sur le salaire des députés.
Ah!
Ben oui, parce qu'à un moment donné, il y a une partie du problème auquel le PQ est confronté, c'est que pour avoir ça, il a renoncé à avoir un poste de leader. Donc, son leader, Pascal Bérubé, doit renoncer à la prime qui venait avec. La raison pour laquelle la CAQ demande qu'on ajoute plus d'adjoints parlementaires, c'est pourquoi? C'est pour donner la prime d'adjoint parlementaire à plus de députés. Non,
c'est parce que le salaire de base de 90, 95...
Non, c'est 101 000...
C'est rendu à 101, j'allais dire 99.
101 561. Mais c'est odieux là comme salaire de base pour un député. Là. Quand tu penses à la charge de travail qu'ont ces gens-là, au déplacement, au manque de vie, tu sais, à un moment donné... Je m'excuse là, mais ça tient pas la route là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas t'attendre à faire venir en politique des gens plus jeunes qui viennent de tous les milieux, puis qu'ils aient pas les moyens de s'occuper de leurs enfants, de leur famille. Là, c'est pas une job de 9 à 5 là. La CPE à 7 piastres là, ça marchera pas. Fait qu'il va falloir à un moment donné avoir une réflexion plus large là-dessus là, je pense.
Emmanuel, je vais finir sur du positif. Étant donné que tu viens de nous dire le salaire de base du député, donc tous les députés qui n'ont pas de nomination, qui gagnent le salaire de base, là, mais au cours des prochains jours, ils gagnent moins de 104 000, ils vont recevoir un chèque pour l'inflation.
On finit
sur du positif. Bonne fin de semaine.
Allez au vendredi fou. Bye. Salut. Bye.